Voilà, bonjour à chacun. Merci de prendre place. Voilà, bonjour à chacun ici ou à distance. C'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous accueille. Avec tous ceux qui, ailleurs, à Mérin, dans le monde, sont réunis au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans ce culte avec un chant conduit par Xavier, avec la voix de Thierry.
Sois ton nom, là où tu donnes l'abondance, et verse ta bienveillance, béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, que je marche en terre inconnue. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit ton nom,
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom,
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire. Oh béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire. Oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Nous continuerons tout à l'heure un temps de louange avec trois chants. Puis nous écouterons Lauriane Schmitt, qui partagera un peu son projet pour l'année qui vient. Et on pourra prier pour elle. J'aimerais aussi remercier maintenant tous ceux qui permettent que ces cultes se passent, se transmettent, se passent dans un lieu agréable. La décoration, la technique, les musiciens, les gens qui s'occupent des enfants à côté dans la chapelle. Voilà, tout ça fait partie de cette vie de l'Église. Et puis les nettoyages, hein, il y a chaque semaine des gens qui viennent nettoyer ces lieux. Voilà. Et vous pouvez tous avoir le privilège d'y participer. Et même au cœur de la nuit, je bénirai ton nom. Voilà, nous sommes au dernier culte de notre série d'été en commun avec la paroisse protestante. Je n'ai pas vu s'il y avait des amis de la paroisse qui étaient présents, mais voilà, s'ils sont là, ils sont accueillis avec bienveillance et bonheur. Et dans tous ces cultes, on a fait un parcours, un cheminement avec ce vieux personnage, 4000 ans en arrière, ce personnage d'Abraham. Et cette fois, Philippe abordera avec nous un texte surprenant. On pourrait même dire un texte choquant pour nos oreilles du XXIe siècle. Et vous avez le droit d'être choqué. Et si vous n'avez jamais entendu cette histoire, je pense que vous le serez. Il y a question de sacrifice. Et ça, avec un sens du terme qui nous est totalement étranger aujourd'hui. C'est aussi un texte qu'on peut lire et comprendre de diverses manières. Pour ma part, je ne serai pas en mesure de prêcher sur ce texte. Merci à Philippe de nous transmettre une parole du Seigneur avec ce texte surprenant. Nous sommes invités toujours à écouter cette parole de Dieu qui s'exprime dans la Bible avec diversité, avec des textes surprenants. Pour moi, ce texte y résonne avec quelque chose qu'on vit quand même un peu tous, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un de précieux. Je pense à la perte d'un enfant. Quand on vit le décès de ses parents, comme Claude qui a perdu sa maman récemment, c'est douloureux. Et en même temps, c'est vrai qu'on l'accepte comme un peu dans la nature des choses. Quand des parents perdent un enfant, dans la force de l'âge, ça reste quelque chose d'incompréhensible et de quelque part beaucoup plus difficile à accepter. On a aussi des pertes parce que, par rupture, par abandon, ou parce qu'un proche, parce qu'un conjoint a sa personnalité qui se dissout progressivement dans la maladie pendant de longues années. Je pense aussi à tous ces gens en Afghanistan qui ont l'impression d'avoir perdu leur pays, ou à ceux qui sont chez nous et qui ne savent pas comment faire avec leurs proches qui sont restés là-bas. Ou à ces gens à Haïti qui ont perdu peut-être de la parenté, qui ont tout perdu leur maison, dans un pays qui est déjà extrêmement pauvre. Voilà, ils vivent des choses terribles. Et on est face à quelque chose souvent d'incompréhensible. Est-ce que nous pouvons encore faire confiance à Dieu et croire à sa bienveillance face à cet incompréhensible? Et si quelqu'un a pu se poser cette question, je pense que c'est bien Jésus lui-même, quand à l'article de la mort, il prie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le cœur du message de l'Évangile, c'est cette confiance indéfectible dans la bienveillance de Dieu, même face à l'incompréhensible. Et on vient de chanter « Au cœur de la nuit, je bénirai ton nom ». prions. Seigneur, merci pour ta présence au cœur de nos circonstances, même les plus douloureuses. Et j'aimerais te remettre aujourd'hui tous ceux qui vivent justement des situations douloureuses de perte ou de rupture. Nous pensons aussi dans le monde à ces différents lieux où des gens ont récemment tout perdu ou perdu beaucoup. En Afghanistan, en Haïti, je pense aussi à la République démocratique du Congo, où nos amis Ouketi vivent souvent des choses difficiles avec tous les gens qui sont dans cette région. Et c'est vrai que, Seigneur, même au cœur de la nuit, nous voulons croire à ta bienveillance. Nous croyons en Jésus ressuscité, vivant aujourd'hui, présent au cœur de nos vies. Seigneur, accompagne chacun de nous ce matin pendant ce culte et dans tous nos parcours de vie. Amen.
Tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es. Toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
Un jour
toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisis des aujourd'hui.
Viens, ne tarde plus,
adore.
Viens,
ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, ne tarde plus, tel que tu es, adore. Tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus. Tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens.
secours est en toi.
S'aimer la ruisselle et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul es ma force. Toi seul me restaure. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en
c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici.
C'est par la grâce,
c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Yeah.
si tu comptais tous nos péchés qui vivraient. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau.
Le temps des études, c'est un temps assez crucial, marquant pour notre évolution, notre compréhension de la foi. En tout cas, ça le fut pour moi, en particulier dans le cadre des GBU. Et voilà, l'église de Mérin et le groupe Mission sont très heureux de pouvoir accompagner Lauriane dans le projet qu'elle va nous présenter. Elle l'a déjà présenté au colloque, mais voilà.
Donc, comme il l'a dit, j'ai présenté mon projet au colloque en juin, donc je suis désolée pour ceux qui entendent ça pour la deuxième fois, au cas où ça fera un petit rafraîchissement. Donc j'ai terminé en juin mon bachelor de traduction à l'université, et puis j'avais à cœur de prendre une année à part pour Dieu. Donc demain, après-midi, je pars pour Manchester en Angleterre. Je vais aller faire une année là-bas avec une organisation chrétienne qui s'appelle Friends International. Et puis, ils travaillent parmi les étudiants internationaux là-bas. Donc, leur but, c'est d'accueillir les étudiants, se lier d'amitié avec eux et leur partager l'amour de Dieu, leur annoncer l'évangile. Donc, juste à Manchester, par exemple, il y a 5 universités différentes. Il y a à peu près 100 000 étudiants, donc voilà, un petit peu plus qu'ici. Et puis, il y a environ 18 000 de ces étudiants qui viennent d'autres pays pour étudier là-bas. Donc, c'est eux qu'on appelle les étudiants internationaux. Et puis, parmi les pays les plus représentés, il y a notamment la Chine, l'Inde, la Malaisie ou l'Arabie Saoudite. Donc, c'est des pays où ce n'est pas forcément toujours facile d'entendre parler de l'Évangile. Et ce que je vais faire, moi, ça s'appelle le REACH Program. REACH comme dans rejoindre, atteindre, tous ces synonymes-là. Et c'est un programme qui est conçu pour les jeunes entre 21 et 30 ans qui sont intéressés par le ministère interculturel. Donc moi, mon engagement, ce sera à plein temps. Donc pour vous donner une petite idée de ce que je vais faire, je vais vous donner des exemples d'activités dans lesquelles je serai impliquée. Donc, par exemple, j'ai organisé, participé à des études bibliques pour les étudiants internationaux, donc en l'occurrence qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui ne parlent pas très bien l'anglais. J'ai aussi organisé des événements sociaux, comme des high cafés, ce qu'ils appellent là-bas, c'est des soirées pour les étudiants internationaux, où ils peuvent juste se rencontrer, pratiquer leur anglais, apprendre plus sur la culture locale, sur différentes cultures, se faire des amis, etc. Ils organisent aussi des camps en été, il y a des sorties à plusieurs moments de l'année. Ils font aussi un peu du suivi pour les étudiants qui sont retournés dans leur pays. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, ce sera ce que je vais faire en environ trois quarts de mon temps. Et puis en parallèle, je vais aussi recevoir une formation pour que je puisse grandir dans ma relation avec Dieu, aussi apprendre comment partager la parole à des personnes de différentes cultures et puis acquérir des connaissances théologiques. Et puis j'aurai aussi des temps d'études personnelles et je vais être encadrée par un mentor. Donc voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, à développer, mais ça c'est un petit condensé pour vous donner une idée de ce que je vais faire. Si vous voulez plus de détails ou si vous voulez me soutenir financièrement ou dans la prière, je vais envoyer des lettres de prière à peu près une fois par mois. Donc si vous voulez les recevoir, vous pouvez volontiers venir me voir ou voir mes parents si jamais vous n'avez pas le temps, peu importe. Et puis comme ça, vous pouvez me donner vos adresses e-mail. J'ai aussi préparé une petite lettre de présentation où justement j'explique un peu plus comment j'ai choisi de faire ce programme et puis un peu plus en détail ce que je vais faire. Donc il y a certaines personnes qui ont déjà reçu, mais si vous voulez la recevoir, faites-moi signe aussi. Et puis, voilà, si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair, vous pouvez venir me voir à la fin aussi. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Voilà.
Je voulais juste lire un tout petit verset de Actes 80, car nous ne pouvons pas ne pas... Oh, pardon. Je voulais juste lire un verset. Actes 80, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, Père Céleste, nous te remettons Lauriane durant son voyage et son séjour en Angleterre. Permets-lui d'être ouverte à ceux et à celles à qui elle doit apporter la bonne nouvelle. Donne-lui, Seigneur, une créativité sans limite, qu'elle amène ta bénédiction, ton réconfort et ton enthousiasme à tous ceux envers qui ton Esprit Saint la guidera. Au nom de Jésus. Amen.
Nous voulons, je te remets, Seigneur, Lauriane, dans ce projet magnifique. Ça va être un temps de découverte pour elle aussi. Elle va recevoir autant que donner. Permet que l'évangile qu'elle veut partager puisse toucher beaucoup et qu'elle puisse elle-même être touchée dans son parcours de vie à ton service. Te la remettons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Cher Seigneur, ensemble, nous te prions pour Lauriane et j'aimerais d'abord te remercier de ce que tu as fait dans la vie de Lauriane depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir créé chez elle une disposition de cœur pour entendre ce à quoi tu l'appelais. Et au-delà de ces dispositions, merci de lui avoir permis de mettre les choses en place. Seigneur, honore, s'il te plaît, la foi et la disponibilité de Lauriane. Nous voulons ensemble la recommander à ta grâce, te demander de la réjouir dans tout ce qui va faire ce projet, de la protéger aussi, et puis de la rendre en bénédiction, que quelque chose de l'Évangile puisse être partagé par Lauriane, par ses collègues de le projet, Seigneur, et voilà, que des étudiants internationaux ou nationaux puissent entendre l'Évangile, le recevoir. Accorde à Lauriane d'être un relais dans ce grand projet que toi, tu as à cœur depuis tellement longtemps. Alors nous te prions pour elle. Prends soin de ton enfant, s'il te plaît. Garde-la dans ta paix ainsi que sa famille et accorde-lui beaucoup de joie pendant cette année. Aide-nous aussi en tant qu'église locale à prier pour elle, à nous montrer solidaires. Et puis nous nous réjouissons de voir ce que toi maintenant tu tiens en réserve pour Lauriane. Ensemble, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon voyage, Lauriane.
Est-ce que tu as des papiers de ta présentation avec toi?
J'en ai trois.
On a trois, ok. Alors elle en a trois, et puis voilà. Et puis on pourra en imprimer d'autres pour ceux qui seraient frustrés de ne pas en trouver en version papier aujourd'hui.
J'ai aussi sa lettre de nouvelles s'il y a besoin. J'ose la diffuser?
Oui, tu oses.
Merci, Lauriane. Super lettre.
Nous voulons maintenant lire ce surprenant texte. Pardon? Ah oui, il y a un oui, il y a un chant. Reçois, oui, j'oubliais. Un chant.
Reçois ma vie comme une adoration. Comme un cadeau d'amour, je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours.
Reçois.
Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de tes grands prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours.
Si nous avons grandi dans un contexte chrétien, ce qui est probablement le cas de la plupart d'entre nous, si nous avons grandi dans un contexte chrétien, alors les grands récits de la Bible nous sont assez familiers. Mais si nous n'avons pas côtoyé David et Goliath dès notre enfance, alors là, la lecture de la Bible nous réserve parfois des surprises. Ah, pour les évangiles, passe encore. Mais la Genèse, si loin de nous dans le temps, si étrange par moments, et si proche de nous quand nous regardons la vie des personnages, leur foi, leurs doutes, leurs errements, leurs bévues. De tout ce qui se passe dans la vie d'Abraham, environ 1800 ans avant Jésus-Christ, la chose la plus étrange, ce ne sont pas les différentes apparitions de Dieu. ce n'est pas la gestation pour autrui. Ce n'est même pas le miracle d'un fils qui naît d'une femme de 90 ans. La chose la plus étrange, et j'ai presque envie de dire la chose la plus absurde, c'est que Dieu demande à Abraham de lui sacrifier ce fils, de lui faire don de la vie de son enfant. Et pas n'importe quel enfant, l'enfant que Dieu lui-même a fait naître par miracle et à travers qui toutes les nations de la terre jusqu'à nous aujourd'hui seraient bénies. Est-ce que Dieu n'est pas en contradiction avec lui-même? Pour tout vous dire, ce n'est pas tant la Bible qui est étrange, c'est Dieu qui est étrange. Pour les peuples alentours et pendant longtemps, le sacrifice humain, ça faisait partie des coutumes. Si vous allez vous balader cet après-midi au musée d'art et d'histoire à Genève, vous pouvez trouver une plaque tombale d'avant Jésus-Christ qui commémorait le sacrifice d'enfants chez les Carthaginois, un peuple issu lui aussi du Moyen-Orient. Sacrifice d'enfant. Ce n'était pas un geste banal, c'était quelque chose d'exceptionnel pour éloigner la maladie ou la famine ou pour s'attirer les bonnes grâces de je ne sais quelle divinité avant de partir au combat. Et le souvenir de ce geste, un sacrifice d'enfant, eh ben ça devait se conserver. La grande histoire en a conservé. L'Ancien Testament a gardé des traces de telles pratiques, par exemple, en 2 Rois 3, versets 26 et 27. Sacrifice d'enfants. Mais ces gens-là, qui sacrifiaient des enfants, ces gens-là, c'était des païens. C'était des gens qui adoraient des idoles de toutes sortes. C'était des gens qui avaient 36 dieux. Ils étaient capables de tout. Franchement, ce n'étaient pas nos ancêtres dans la foi, ces gens-là. Et les rares fois où la Bible relate un sacrifice humain, c'est avec une horreur absolue. Dans la loi de Moïse, ça fait partie des péchés abominables, complètement interdits, des péchés tellement graves qu'ils ont contribué à l'invasion de Canaan, où l'on sacrifiait des enfants. Et voilà que pour conclure notre série sur Abraham, eh ben on voit qu'Abraham doit sacrifier son fils. Son unique. C'est pire qu'étrange. C'est affreux et c'est révoltant. Alors je vous propose d'écouter la lecture de Genèse 22 et de deux autres textes dans le Nouveau Testament.
Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, et Abraham répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Prends ton fils, Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux serviteurs, ainsi que son fils, Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais, des cieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, répondit Abraham, me voici. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, « Le Seigneur y veillera ». Des cieux, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. » Abraham retourna auprès de ses serviteurs. Ils se mirent en route ensemble et regagnèrent Beersheba, où Abraham s'installa.
Hébreux 11, 17 à 19. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Lorsque Dieu le mit à l'épreuve, il se montra prêt à offrir son fils unique, alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » Mais Abraham estima que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils, et ce fait a une valeur symbolique.
Et encore dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 18 à 24, on dira peut-être, « Tu as la foi, » mais moi, j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Et moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Si sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient, Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à sa foi.
Merci pour les lectures. J'aimerais interroger le chapitre 22 qu'on a lu au début des trois lectures, le chapitre 22 de la Genèse. J'aimerais interroger ce chapitre avec trois questions. La première, c'est quel sens donner à ce que Dieu demande? La seconde, est-ce que nous pouvons retenir quelque chose, nous, aujourd'hui, en 2021, de l'action d'Abraham? Et puis, existe-t-il une portée symbolique à ce que nous avons lu? D'abord, quel sens donner à ce que Dieu demande? Il me semble que le premier verset nous donne déjà un élément de réponse, une indication. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le but de la tentation dans la vie, c'est de nous faire tomber, c'est de nous péter les jambes, c'est de nous éloigner de Dieu. Ça, c'est le but de la tentation. C'est de nous casser, de nous briser, de faire qu'on se casse les dents, si ce n'est pas autre chose. Mais le but de l'épreuve, c'est de tester la solidité de quelqu'un. Et même de fortifier la solidité de quelqu'un. Comme une épreuve sportive vient fortifier un athlète pour la suite. Vous avez peut-être entendu que la tenniswoman suisse Jill Teichmann est en finale aujourd'hui, enfin demain, du tournoi de Cincinnati. Et elle expliquait ce matin, Jill Teichmann, après avoir quand même battu Naomi Osaka, hein, par exemple, et puis sa compatriote suisse Belinda Bencic, elle disait qu'elle gagnait parce qu'elle s'était habituée au fil des matchs aux conditions de jeu. C'est ça le but de l'épreuve, c'est de nous fortifier pour la suite de la compète. Dieu ne tente personne, mais manifestement, Dieu nous met à l'épreuve. Et ce sont parfois les mêmes événements qui peuvent être compris soit comme des tentations, soit comme des épreuves. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu vient tester la foi d'Abraham? C'est dans les versets 12 et 16 qu'on a un début de réponse. Maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham, ce n'était pas un homme parfait. Il me semble qu'on l'a vu pendant notre parcours estival. Ce n'était pas un homme parfait, mais quand même. C'était un homme qui marchait avec Dieu, qui avait les yeux portés vers l'avenir, vers cette descendance nombreuse que Dieu lui promettait, vers le pays qui serait donné à ses descendants, vers la bénédiction qui serait offerte à toute la terre. Et autour de lui, ben Abraham, il avait le culte des dieux païens, le dieu de la lune et du soleil, le dieu de la pluie et de la fécondité, le dieu de la prostitution cultuelle et du sacrifice des enfants. Le dieu très haut, le dieu unique, quelques-uns le connaissaient, mais très peu, pas beaucoup. Sur le plan de la foi, Abraham, il était comme nous, une exception à la règle. Est-ce qu'il aimait l'Éternel, son Dieu, autant que les païens aimaient leur Dieu à eux? Est-ce qu'il avait vraiment la foi? Est-ce qu'il avait vraiment confiance en Dieu? Était-il vraiment un homme juste? les païens alentours sont capables d'offrir leurs enfants en sacrifice à des dieux inventés de toutes pièces. Est-ce que la foi d'Abraham est aussi solide? Est-il capable de donner à Dieu ce qu'il a de plus précieux? Pas des moutons, pas des chèvres, pas des vêtements richement brodés, pas de l'argent, pas de l'or, pas un territoire, mais son enfant unique, sa vie. Oui, il en est capable, mais ce ne sera pas nécessaire. Puis il y a certainement autre chose encore. N'oublions pas qu'Abraham va être l'ancêtre de tout un peuple. Le peuple d'Israël, dans un premier temps, et puis le peuple de la foi en Christ, dans un second temps. Ce qu'il a fait peut donc avoir valeur d'exemple. Et c'est là qu'on va essayer de répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action d'Abraham ? La foi, surtout la foi, la confiance absolue en Dieu, la foi du cœur qui se traduit par des actes d'obéissance. L'épître de Jacques, dont nous avons lu un extrait, souligne cet aspect-là, chapitre 2, versets 20 à 24. Ça ne sert à rien de dire que l'on croit en Dieu si on ne fait pas ce qu'il demande. Il vaut mieux changer de crèmerie. Ça ne sert à rien de dire ou de chanter qu'on croit en Dieu si on ne fait pas ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'Abraham savait de Dieu ? La création, la désobéissance d'Adam et Ève, le déluge, la tour de Babel. Il avait peut-être ça, vous savez, sur ses tablettes d'argile. Et puis ces choses faisaient certainement partie des traditions orales de sa famille. Abraham, il savait aussi qu'un jour, Dieu l'avait appelé à quitter Ur en Chaldée, et ses dieux païens, il savait que Dieu avait promis de le bénir et de bénir toute la terre à travers sa descendance. Il avait l'habitude de s'approcher de Dieu en lui proposant une offrande, un sacrifice. Parce qu'Abraham nous le dit fortement, on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Alors, il n'avait pas encore la révélation de la loi de Moïse. Il n'avait pas encore les prophètes. Et puis, il n'avait surtout pas encore l'ultime, magnifique révélation de Dieu ultime en Jésus-Christ. Il n'avait pas ça. Mais il avait pris l'habitude de marcher par la foi. Et sa foi se voit dans son obéissance qui est prompte et qui est déterminée. Elle est d'autant plus remarquable que sacrifier Isaac reviendrait à mettre une croix sur ce qui faisait la joie de sa vieillesse, réduire à néant tout le projet dans lequel Dieu avait embarqué Abraham. Mais vous rendez compte le truc de Genèse 22? C'est absolument dingue. Il y a 3 jours de marche entre Beersheba d'où il part et le mont Morija où il arrive. 3 jours. 3 jours vécus dans un questionnement impossible, dans un conflit intérieur insoutenable. Est-ce que l'ordre de Dieu va venir contredire la promesse de Dieu? Il doit bien y avoir une échappatoire. Mais laquelle? Au verset 5, Abraham, il dit à ses serviteurs, « Nous reviendrons vers vous. » Imagine quoi, Abraham? Que Dieu ressuscitera l'enfant une fois mort? Que Dieu pourvoira un sacrifice de substitution, comme il le dit à Isaac, au verset 8, il y croit à ça. Ou il ment, Abraham. Il est dans le déni, il est dans un délire religieux. Franchement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il serait assez juste de dire, avec le reste de la Bible, pas juste Bibi devant le texte, hein, avec le reste de la Bible, je pense qu'il serait assez juste de dire qu'Abraham a la foi. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 19, dit que pour Abraham, Dieu était assez puissant pour ressusciter un mort. Il a la foi. Nous avons affaire avec un homme de foi. Il ne sait rien de la solution que Dieu trouvera, mais il veut marcher avec Dieu de son mieux, avec intégrité. Personne d'entre nous n'a vécu une épreuve aussi terrible. Personne. La maladie, même grave, l'approche de la mort, ce n'est rien comparé à l'idée qu'on va devoir tuer son propre enfant. À certains moments dans l'histoire de l'Église, en France, en Russie, en Chine, des chrétiens ont vu leurs bourreaux s'acharner sur leurs enfants, leur enlever leurs enfants, faire du chantage sur la vie de leurs enfants. Et cela se passe encore de nos jours, dans le nord du Nigeria, par exemple, ou en Corée du Nord, ou en Inde. Il suffirait parfois de renier le Christ pour arrêter le massacre. Et cela, aussi horrible soit-il, ce n'est pas encore à la hauteur de l'épreuve qui est imposée à Abraham. Parce que ce sera lui, le bourreau. Jésus a dit en Matthieu 10, verset 37, c'est un des versets qui, j'y arrive pas, mais je le partage, il est là. « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. » La foi d'Abraham, elle est de cet ordre-là, héroïque. Bon, on pense un peu à nous-mêmes maintenant, juste quelques instants. Notre foi en Dieu, est-ce qu'elle soutient la comparaison avec la passion d'un sportif, d'une sportive, d'un gamer? Notre foi en Dieu, est-ce qu'elle soutient la comparaison avec l'ambition d'un chef d'entreprise ou d'une personnalité politique? Il y a autour de nous plein de gens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour leur passion parfois futile. Mais notre passion pour Dieu, est-ce qu'elle supporte la comparaison? Et notre Dieu à nous, ce n'est pas une idole qui dévore ce qu'on lui présente. Notre Dieu à nous, il nous restaure, il rééquilibre nos vies et puis il nous rend à la liberté. C'est le péché qui nous rend esclaves. Mais quand il y a des choix, qu'est-ce qui passe en premier? Qui passe en premier? Une ou deux fois dans la vie, nous serons peut-être confrontés à un choix héroïque comme Abraham. Assumer une promesse plutôt que la trahir. Protéger la vie dans ses débuts comme dans sa fin. Dénoncer une injustice plutôt que de se taire. Se déclarer comme chrétien quand tout le monde est contre. Ultimement, peut-être, accepter de perdre sa vie pour Jésus-Christ. De par le monde, et dans une moindre mesure, même chez nous, obéir à Dieu peut parfois coûter cher. Je dis généralement aux futurs baptisés qu'avec leur baptême, j'espère qu'on en célébrera bientôt, qu'avec leur baptême, ils entrent dans la cohorte des martyrs. Mais franchement, notre défi à nous, il n'est pas là la plupart du temps. Le test ne sera pas comme pour Abraham une question de vie ou de mort.
ce sera plutôt est-ce que je me couche à une heure raisonnable samedi pour rendre un culte à Dieu le dimanche? Dans mon travail ou dans ma famille, est-ce que je suis capable de reconnaître que j'ai eu tort et demander pardon? Est-ce que j'offre à Dieu une partie de mes revenus ou seulement des boutons de culotte? Est-ce que Dieu est le premier servi ou le dernier? Est-ce que je prends soin des miens ou est-ce que je suis en train de courir ailleurs pour plaire aux autres et parfois qu'à l'église? Est-ce que je garde la colère pendant des mois, des années, ou est-ce que je cherche à assainir mes relations comme Dieu le veut? Est-ce que je vis dans la polygamie, l'adultère, ou est-ce que j'honore Dieu par le mariage? Est-ce que je fais de mon couple un champ de bataille ou un havre de paix? Est-ce que je cherche le bien des autres ou est-ce que je garde tout pour moi? Et si j'entends la voix de Dieu alors que je lui ai demandé de m'éclairer, Dieu me répond par un projet qui me surprend. Si les vents sont contraires, si ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu, est-ce que je persévère? Qui sait si Dieu n'est pas en train de nous mettre à l'épreuve aujourd'hui pour de petites choses? Petite chose. Notre réponse est sans doute un indicateur de notre relation à Dieu. Abraham a passé un test bien plus difficile que celui qui nous attend quand nous sortirons du culte. Et sa justice a été démontrée par des actes. Jacques 2, verset 12. Je termine avec ma dernière question. En abordant ce passage, j'ai proposé trois questions. Quel sens donner à ce que Dieu demande? Ben, j'y vois une mise à l'épreuve. Que pouvons-nous retenir de l'action d'Abraham? Sans aucun doute, l'obéissance de la foi. Concrètement, l'obéissance de la foi. Et puis, en dernier lieu, quelle portée symbolique est-ce que nous pouvons y discerner? Eh bien, je pense que la réponse, c'est que ce récit pointe vers Jésus-Christ. Je ne suis pas de ceux qui seraient prêts à tordre le sens de la Bible pour trouver des prophéties de Jésus-Christ partout. Ça m'agace un peu. Mais puisqu'Abraham est le père fondateur de la foi en Christ, Jean 8, verset 56, c'est Jésus qui le dit, il n'est quand même pas idiot de se poser la question d'éléments dans ce récit qui pointent vers Jésus-Christ, vers le Messie. Et j'en vois trois, très rapidement. D'abord, aucun chrétien, aucune chrétienne ne peut lire ces mots « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique »« Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique » sans penser que Dieu, lui, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, Jésus-Christ. On ne peut pas lire ce récit sans penser à Jésus. Dieu a épargné le fils d'Abraham, mais il n'a pas épargné son propre fils. Romains 8, verset 32. Bien sûr qu'on n'utilise pas le mot fils dans le même sens pour Dieu. Pas tout à fait. Parce que le Christ est le fils de Dieu depuis l'éternité. Mais le parallèle, il est frappant quand même. Le fils du miracle des deux côtés. Le fils aimé du Père des deux côtés. Le Fils qui incarne le projet du Père des deux côtés. Isaac, c'est une anticipation de Jésus-Christ. Mais Isaac a été épargné, pas Jésus. Deuxièmement, Abraham dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu pourvoira lui-même. Il l'a fait, hein, sur le mont Morija, en montrant à Abraham ce bélier pris par les cornes dans un buisson. Il l'a fait dans la loi de Moïse, en instituant un rituel où le sacrifice d'une bête du troupeau faisait partie du culte offert à Dieu en parlant ensuite de fautes pardonnées, de fautes expiées. Mais ça, c'était juste dans l'attente de celui qui porterait le nom hautement symbolique d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui s'offre en sacrifice lui-même pour nous. Et puis le troisième et dernier symbole, c'est pas moi qui suis allé le chercher, hein. Je le trouve dit comme ça dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 19 que Zéna a lu. Quand Abraham a détaché les liens d'Isaac, c'est comme si Isaac ressuscitait. Et l'auteur de l'Épître nous dit qu'il y a là un symbole, une symbolique, une préfiguration de la résurrection. Dieu a détaché les liens de la mort qui entouraient le corps de Jésus, et Jésus est ressuscité pour de vrai. Et la mort a été vaincue, et sa résurrection à lui prouve la nôtre. C'est fait. Je conclue. C'est par un test à nos yeux bizarre, terrible, que Dieu éprouve la solidité de la foi d'Abraham. Il nous pousse à nous poser la question de notre propre cohérence, de notre propre intégrité dans la foi. Et il nous incite à regarder plus loin encore vers Jésus-Christ qui est l'aboutissement du salut. Finalement, moi je suis plutôt réjoui de trouver des choses un peu étranges, un peu bizarres dans la Bible. Parce que ça me dit de façon très concrète que Dieu est en prise avec la vie réelle. Pas là-haut dans son ciel, mais en prise avec la vie réelle. J'espère que dans cette vie réelle, il nous trouvera engagés dans une foi qui l'honore. Amen.
Vous proposons un bref moment de silence en réponse à l'interpellation de ce message. Avant d'y donner une réponse par un dernier chant, j'aimerais simplement dire que les pasteurs et les gens du conseil sont à votre disposition si une personne ou l'autre désire un temps de partage et de prière après le culte, tout simplement.
mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là.
Je ne sais pas si Joanne, tu veux venir faire les annonces. Voilà.
Bonjour à tout le monde. Alors, pour les annonces, dimanche prochain, toujours un culte, on y croit, c'est notre foi aussi. C'est le 29 août et puis c'est un culte avec Cédric hein, et Gaël Chanson. Et puis j'en profite aussi pour les potes, donc les potes c'est les enfants. Pour ceux qui ont reçu le potager d'été spécialité, vous avez vu un petit témoignage des enfants de Cédric et de Gaël, Lélia et Mathieu. Et ils viendront présenter ce qu'ils vivent dans le pays où ils sont. J'en dis pas plus. Donc venez nombreux, ça sera dans la chapelle avec quelques photos. Vous pourrez poser plein de questions sur ce qu'ils vivent dans ce pays en Afrique. Ensuite, le dimanche encore suivant, donc le 5 septembre, c'est le culte de la rentrée. Cette année, l'école recommence très tardivement, hein, quasiment fin août et début septembre. Donc le culte de la rentrée est le 5 septembre. Et puis c'est aussi le programme des potes qui recommence et le nouveau potager sera distribué à ce moment-là. Ensuite, le colloque du 17 septembre, colloque extraordinaire pour la réélection du conseil. Le colloque est bien sûr ouvert à tous. Les votes sont réservés aux membres et l'inscription pour les membres, c'est le dernier délai encore aujourd'hui que vous pouvez faire. Ensuite, je ne sais pas s'il y a une petite slide pour tout ce qui concerne la liste de diffusion. Voilà, donc juste un petit rappel aussi des inscriptions que vous pouvez faire pour une liste d'informations à différents niveaux. Donc il y a ce qui est l'actu Mérin qui concerne toutes les activités courantes et les événements. Il y a aussi la liste info qui est pour les informations officielles, les colloques. Ensuite il y a une liste de diffusion pour la prière avec les nouvelles personnelles pour la prière. Et puis le coup de pouce qui est pratique, vraiment c'est une... On ne va pas dire bourse d'échange, mais si vous avez quelque chose à donner ou à vendre ou vous recherchez quelque chose, c'est l'occasion d'avoir un petit coup de pouce dans votre vie quotidienne. Et puis, dernier point concernant les offrandes. Donc, vous avez toujours à la sortie la possibilité soit de mettre dans le petit panier, soit par Twint avec le QR code qui est affiché, ou bien encore par le CCP, il y a les bulletins de versement. C'est le moyen à notre église de pouvoir vivre, de pouvoir fonctionner. Merci à chacun.
Je précise juste pour cette liste de membres et ce vote que ceux qui étaient déjà inscrits comme membres l'année dernière sont toujours sur la liste. Pour les nouvelles personnes, donc ce sera un peu le dernier délai aujourd'hui. Et si vous avez envie d'être membre, vous ne savez plus très bien si vous êtes sur la liste, j'ai une liste là imprimée pour vérifier à la sortie. Voilà. Alors nous arrivons au terme de ce culte et j'invite Philippe pour la bénédiction finale.
Je précise encore que Florence Piguet sera opérée demain dans la journée, ici même à l'hôpital de la Tour. On peut la conserver dans nos prières. Je vous invite à vous lever pour cette bénédiction que j'emprunte à l'apôtre Paul en Romains 12, 1 à 2. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Je vous souhaite une belle semaine, accompagnée par la grâce du Seigneur, qu'il vous garde et vous raccompagne en sécurité chez vous. Amen.